Tente Noire, seconde partie.
Vous pouvez peut-être entendre un petit peu plus. Voilà, donc moi je vais commencer par vous parler en gros d'une ville. Une ville, c'est-à-dire la Nouvelle-Orléans.
New Orleans.
Voilà, oui, mais moi j'essaye même pas. Hein. Donc deux romans qui se passent à la Nouvelle-Orléans, et on peut même dire sur la Nouvelle-Orléans. Tellement les singularités de cette ville sont au cœur de cette ville, des deux livres, pardon. Il est vrai que cette ville, une des plus pauvres des États-Unis, une des moins sûres, est un terrain idéal pour le roman noir. Et depuis, malheureusement, l'ouragan Katrina, c'est encore plus vrai. L'on sait à quel point, d'ailleurs, les écrivains américains sont prompts à s'emparer des événements les plus récents pour les intégrer dans leurs récits. Alors que ce soit des écrivains ou des scénaristes, puisque je vous recommande fortement la série Trem, qui se passe dans un des quartiers de New Orleans, comme tu dis, Jacques, et qui raconte l'histoire de quelques musiciens de jazz juste après, qui essayent de se reconstruire leur vie juste après l'ouragan Katrina. Donc le premier roman dont je vais vous parler s'appelle « Après le déluge ». Il est d'une nouvelle venue qui s'appelle Joy Castro. C'est à la série Noire et la traductrice en est Isabelle Maillet. On y découvre une jeune journaliste, Nola, et une histoire des plus étranges. En effet, quand Katrina s'est abattue sur la ville, lors des évacuations massives, beaucoup de délinquants sexuels en ont profité pour disparaître, les fichiers avec d'ailleurs. Nola, jeune journaliste donc, qui végète à la rubrique Loisirs, se voit chargée d'un article sur ces délinquants et sur leurs victimes. Au même moment, à peu près le même jour d'ailleurs, une jeune femme, est enlevée en plein milieu de la Nouvelle-Orléans. Beaucoup pensent qu'on ne la retrouvera pas vivante, surtout que des cas semblables ont amené à découvrir deux cadavres assez mutilés. S'il est intéressant de suivre Nola construire peu à peu son article en rencontrant aussi bien d'ex délinquants ou des délinquants actuels, mais aussi leurs victimes. En gros, le plus passionnant dans ce livre, c'est la deuxième enquête, on peut dire même quête, que mène l'auteur sur son propre personnage. En fait, comment cette jeune fille, au début du roman, parfaitement équilibrée, montre petit à petit son vrai visage, ses failles. Son enfance dans un quartier pauvre, élevé par sa mère, seule, qui a fui Cuba. Son désir de s'intégrer dans une société bourgeoise, cachant d'ailleurs même à ses meilleures amies, elles-mêmes plutôt friquées, c'est des filles de la bonne société de la Louisiane, elle leur cache ses origines modestes, elle leur raconte rien, elle feinte même. Et puis, sa façon de concevoir le sexe, assez étonnante, en one shot en gros, le plus souvent en choisissant un beau mâle à la sortie d'un terrain de foot et en consommant, on va dire, sur place, une espèce de drive-in, hein, à l'arrière de la voiture ou dans un bosquet. Petit à petit, donc, Nola, ce personnage, nous intrigue et nous donne envie de la comprendre. Jusqu'à un coup de théâtre final qui, si on peut se douter qu'on va avoir une certaine révélation, en surprendra malgré tout quelques-uns. En arrière-plan, vous avez droit à une visite de cette ville de tous les excès. D'ailleurs, c'est parfois, si je dois faire une petite critique, c'est parfois un peu didactique, un peu trop guide de tourisme. Mais qui sait, si jamais vous prévoyez un voyage prochain à la Nouvelle-Orléans, ben vous prenez un papier et un crayon et vous aurez quelques adresses de bars et de restaurants qui semblent, ma foi, tout à fait sympathiques.
Et de footballeurs, apparemment, aussi.
Oui, mais bon, alors là, beaucoup moins. Là, je vous les recommande beaucoup moins, ces coins-là. Hein. Je vous ai dit que je vous allais vous parler de deux romans. Le deuxième est très différent, tant dans la narration que dans le style. Il est vrai que l'écrivain s'appelle Norman Spinrad et qu'il nous vient tout droit de l'univers de la science-fiction. C'est un des grands de la science-fiction actuelle. Cela se sent tout à fait dans ses descriptions et dans le rythme et dans vraiment l'espèce de scansion qu'il a dans toute sa narration. C'est absolument superbe. Le livre s'appelle « La police du peuple ». C'est publié chez Fayard. La traduction, c'est de Sylvie Denis. Et, tout simplement, je vais laisser le narrateur se présenter au début de ce livre, ainsi que la grosse facile. La grosse facile, c'est comme ça qu'il nomme la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est vraiment le début du roman. Les choses sont encore plus comme elles sont maintenant qu'elles l'ont jamais été auparavant. Celui qui a dit ça, peut-être un jour de mardi gras du bon vieux temps, avait dû s'en envoyer de la bonne. Il y a des gens qui continuent à râler parce que le Mardi Gras éternel, classé X ou pas, n'est qu'une version Disney du vrai Mardi Gras à l'ancienne. La parade des Crous traditionnelle est limitée à la veille du Mardi Gras traditionnel et aux itinéraires traditionnels. Alors que les chars à gros budget d'Hollywood, Bollywood, Pornywood, classés X ou pas, paradent toute l'année et dans toute la Nouvelle-Orléans. J'imagine qu'on peut dire que c'est plutôt vrai, vu que c'est Disney que j'ai introduit en premier dans la place et que j'ai même persuadé la souris d'ajouter ses dérivés classés X à son menu familial habituel. Mais déplorer que la souris ait fait subir au vieux carré la même chose qu'à Times Square, sans parler de la façon dont ça s'est infiltrée dans toute la Nouvelle-Orléans, comme la boue pendant la saison des ouragans, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Les jours de gloire du vieux carré étaient loin derrière lui, bien avant Katrina. Quant à qualifier votre serviteur, Jean-Baptiste Lafitte, de sale rat du marais et de traître à l'état libre de Louisiane et à l'âme véritable de la ville pour avoir traité avec eux, vous vous attendez à ce que je m'excuse d'avoir empêché que la ville disparaisse sous les eaux ? De quoi ? Ou quoi ? Oh que oui, je l'ai fait. Voilà. Voilà comment se présente ce Lafitte qui, on va rester dans le sobre, tient un bordel, comme il semble d'ailleurs qu'il y en a beaucoup dans cette ville qu'on appelle aussi la Grosse Cochonne, autre surnom donc de la capitale de la Louisiane. Et Lafitte, ça va être le fil conducteur, le lien entre tous les autres personnages, en particulier les deux autres protagonistes de ce récit, Luc Martin. Alors Luc Martin, avec un patronyme pareil, des fois il l'appelle Martin, Luc Martin, on pense à un héros pas si lointain de l'Amérique. Donc lui, il est flic, il a un passé étonnant. Et puis l'autre personnage, Marie-Lou, une chanteuse des rues. Luc, il a, dans un passé récent, peu ou prou, rétabli l'ordre dans les quartiers complètement pourraves des marais, en montrant en gros que les flics, c'était le gang le plus dangereux de tous les gangs d'allumés qui zonent dans les quartiers les plus pauvres de la Nouvelle-Orléans. Luc, donc, qui est maintenant dans des quartiers un petit peu plus chic, on va dire, bah simplement, il doit être expulsé. Et il doit être expulsé par ses copains. Vous savez, comme tous ces milliers d'Américains, à cause des emprunts toxiques, à cause de la crise des subprimes, à cause du super dollar, tous ces millions donc d'Américains moyens qui ne pouvaient payer leur traite et qui ont été jetés à la rue. Évidemment, Luc, que ses copains le jettent à la rue, ça le révolte un peu, et il va se rebeller. À l'aide de certains syndicats, il va fédérer l'ensemble de la police pour qu'au départ, un flic ne puisse plus jamais expulser un autre flic. Au même moment, ailleurs, autre part dans la ville, la jeune Marie-Lou entre dans des transes bien singulières. Il n'en faut pas plus à la population pour en faire la porte-parole des Loas. Alors, est-ce que vous savez, Jacques, ce que sont les Loas ?
Loas, comme Loas. Avec
de... L-O-A-S, tout simplement. Ah non. Ce sont les dieux vaudous qui vont s'exprimer tout au fil du roman par la bouche de la petite Marie-Lou. Et les élections se profilent à l'horizon. Et ces Loas demandent à Marie-Lou, ni plus ni moins que de se présenter au poste de gouverneur. Évidemment, elle a peu de chance. Sauf que le dieu des rois ou le roi des dieux vaudous, le baron Samedi en personne, se met en colère et promet au peuple louisianais un ouragan encore plus terrible que Katrina s'il n'élise pas Marie-Lou. Beaucoup de sceptiques, bien sûr, dont moi. Hein. Mais quand une énorme dépression se forme dans le golfe du Mexique, les voix se reportent immédiatement sur Marie-Lou, qui se retrouve bien malgré elle, gouverneur de la Nouvelle-Orléans. Et si le peuple, plutôt que d'avoir élu un politicard de merde, un magouilleur, un menteur, il avait tout simplement élu pour la première fois une honnête citoyenne prête à écouter son discours, prête à écouter son peuple et peut-être faire cesser la corruption. Et si la police devenait enfin la police du peuple, protégeant celui-ci de ses gouvernements, protégeant celui-ci des puissances industrielles et promoteurs, et se mettant de leur côté pour leur éviter toute nouvelle expulsion. Ne rêvons pas, tout ça c'est dans un roman. Et ce roman, c'est un conte, très subtil, qui explique l'état de cette ville. Encore une fois, hein, on le rappelle, une des plus pauvres des États-Unis. On a plutôt des fois voilà, le vieux carré, le jazz New Orleans, mais c'est vraiment la misère totale. Et c'est d'autant plus vrai que Katrina est passée par là, et c'est d'autant plus vrai que la Nouvelle-Orléans est de plus en plus aux mains de quelques riches, se cooptant les uns des autres pour se partager le gâteau et s'enrichir encore plus sur le dos des ouvriers, des plus humbles, qui finissent à la rue. La charge de Norman Spirad est assez féroce contre les hommes politiques de tous bords, les industriels, les émissions de télé évangélistes et en gros contre les États-Unis en général. Par sa voix, par sa plume, ce ne sont pas les esprits vaudous qui s'expriment, mais plutôt la désespérance de tout un peuple qui, et c'est ça le plus triste, n'a plus de rêves et, si jamais il en a eu quelques-unes, en tout cas, a perdu tout espoir d'utopie. Voilà, je rappelle le titre des deux romans, donc le dernier, Police du peuple, Norman Spirad, chez Fayard, et le premier, Après le déluge, Joy Castro, à la série noire. Et pour illustrer la Nouvelle-Orléans, Jacques.
Eh bien, on va rester dans le ton avec une chanson de Creedence Clearwater Revival qui s'appelle Born on the Bayou, qui est issue d'une session dans laquelle il joue avec Booker T and the MGs.
Jacques, c'est à toi.
Donc, je vais vous parler. En fait, vous allez vous dire qu'à Onde Noire, en fait, on disjoncte un petit peu. Il y a quelque temps, Jean-Marc vous a parlé de foot. La Corinne vient de parler de voodoo. Et moi, je vais vous parler d'un livre avec des zombies, qui est directement dérivé des croyances voodoo. Alors, s'il y a bien quelque chose qui, a priori, ne m'intéresse pas, c'est bien les zombies.
En quatrième, t'inquiète pas, ça n'existe pas. Hein,
voilà, en quatrième de couverture, on évoque la série Walking Dead, qui n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais voilà, ce roman ne parle pas que de zombies. En fait, les zombies, c'est vraiment qu'un prétexte. Alors, ça commence par... Donc, je n'ai pas dit le titre.
Mais tu n'as rien dit.
Alors, je vais le dire. Oui, c'est un roman de Mike Carey qui s'appelle, Celle qui a tous les dons, qui est publié à l'Atalante et traduit par Nathalie Meige. Alors, ça commence, en fait, Mélanie, c'est une jeune fille, elle a 10 ans, elle va à l'école, ça, plutôt normal. Sauf qu'elle est attachée à un fauteuil roulant, décidément. Et tous les matins, on la sort de sa cellule sous l'œil du sergent Parks, qui est de deux gardes armés aussi. Elle est très attentive, elle est très douée à l'école. Et Mademoiselle Justineau, une de ses professeurs, l'aime beaucoup. Et on est très vite intrigué par cette jeune fille. Que fait-elle là ? qui sont ses camarades, que peut bien être cette école un peu spéciale où tous les élèves sont sanglés à des fauteuils roulants et qu'on remet en cellule à la fin de la journée. Et si vous arrivez là, vers la page 50, vous êtes perdu, car vous ne pouvez pas faire autrement que de finir le livre le plus vite possible. Enfin, perdu, façon de parler, bien évidemment. Et vous découvrirez le professeur Cadwell, qui est une scientifique en charge d'étudier ses enfants. Il y aura d'autres profs, il y aura un jeune militaire, Gallagher, et il y aura aussi les AFAM. Alors les AFAM, c'est une réduction de affamé. C'est ainsi que l'auteur ou cette traductrice ont appelé les morts vivants de ce roman. Alors les humains ont été partiellement, une grosse partie du moins, anéantis par un champignon parasite.
Et on verra, va bientôt nous arriver.
Voilà, et on verra donc l'incurie de nos gouvernements et des industriels à gérer ce genre de problème. On pourrait penser à un méga Ebola. Et on verra aussi la violence que peuvent exercer les enfants, mais aussi leur capacité de résistance et de survie. Cette jeune fille sans parents, Mélanie, et cette jeune femme, la prof, qui est sans enfant, ce militaire qui est moins bourrin qu'on pourrait croire pour un militaire sergent, comme on a l'habitude de voir dans certains romans. Alors j'entends certains dire « Oui, mais enfin, c'est de la SF, c'est pas un polar. » C'est sûr. Mais d'abord, c'est un excellent bouquin. C'est un page-turner vraiment extrêmement bien fait. J'ai pas envie de dire thriller. Et c'est une road movie, parce qu'à un moment, ils vont sortir de cette école. Et c'est aussi une fable post-apocalypse qui fait quand même tout de même 512 pages et qu'on lit très très vite. Et on la lit très vite, mais par contre, une fois qu'on l'a fini, ça reste très longtemps, on la reste très longtemps à l'esprit, malgré une fin qui est à la fois très abrupte et étonnante que, évidemment, je ne vous dirai pas. C'est un roman vraiment passionnant, très bien écrit, qui amène le lecteur, évidemment, à quelques réflexions.
Et qui sont totalement des thèmes de polar.
Voilà, qui sont tout à fait des thèmes de polar. C'est donc difficile de réclamer plus d'un roman qui soit bien écrit, qui soit intéressant, qui soit pas exactement. Il faut remercier aussi à la fois l'éditeur et Nathalie Meige qui nous permet de lire ce roman en français, parce que j'imagine qu'en anglais, ça doit être quand même assez costaud. Et en plus, il est publié dans une collection qui a un très beau nom, qui s'appelle La Dentelle du Cygne, chez La Talente, qui publie des romans un peu dans l'imaginaire. Et donc, je pense qu'il faudra la surveiller, parce qu'on pourra peut-être trouver d'autres pépites, surtout que leur collection chez Atalante de polar qui s'appelle Insomniac et Ferroviaire est plutôt en sommeil.
Eh bien voilà, ça va être le moment d'ailleurs de mettre notre émission en sommeil. Donc peut-être...
Mike Carré, celle qui a tous les dons chez Atalante.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et voilà, avec un bon bouquin, chacun dans son coin.